Donc, je n'avais pas le temps de préparer quelque chose de neuf, donc j'ai repris un de mes textes non publiés, mais je ne crois pas avoir communiqué en cette instance, qui est une réflexion d'épistémologie historique ou de méthodologie historique. Épistémologie, c'est un grand mot. Sur la notion de génocide et au-delà sur les limites de l'interprétation historique. En fait, il s'agit des rapports entre deux garces, Clio, et la muse de la justice. Donc, je commencerai par réciter un texte de Borges, Funès ou la mémoire. Ce personnage de Borges, dans les fictions, se rappelle avec une infinité de détails chaque instant de sa propre vie. Je cite. D'un coup d'œil, nous percevons trois verres sur une table. Funès lui percevait tous les rejets, les grappes et les fruits qui composent une treille. Il connaissait les formes des nuages astraux de l'aube du 30 avril 1882 et pouvait les comparer au souvenir des marbrures d'un livre en papier espagnol qu'il n'avait regardé qu'une fois et aux lignes de l'écume soulevées par une rame sur le Rio Negro la veille du combat de Quebracho. Donc c'est une hyperamnésie. S'il pouvait tout reconstituer dans sa mémoire, mais ça impliquait un traitement à l'identique. Deux ou trois fois, il avait reconstitué un jour entier. Il n'avait jamais hésité, mais chaque reconstitution avait demandé un jour entier. En continuant sur le paradoxe, Borges montre que l'abondance infinie des détails empêche de penser, puisqu'elle rend impossible toute généralisation. Il lui était difficile de comprendre que le symbole générique chien embrassa tant d'individus dissemblables de formes diverses. Cela le gênait que le chien de 3h14 vu de profil eut le même nom que le chien de 3h15 vu de face. Donc, à chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, il se trouve totalement surpris. Donc, ce paradoxe de Borges nous rappelle d'abord ce fait qu'une connaissance exhaustive du passé dans ses moindres détails rendrait absolument impossible la connaissance du passé. Heureusement, l'historien ne se trouve pas devant une telle possibilité. Le passé n'est jamais disponible pour un historien dans son exhaustivité. On ne dispose du passé que des traces qu'il a laissées et qu'ils sont parvenus jusqu'à nous. Grâce à elles, nous pouvons procéder à une reconstitution, une restitution de ce qui a disparu. Donc, il faut fondamentalement distinguer entre une histoire prise comme déroulement du temps, le passé au sens générique du terme, et l'histoire en tant que reconstruction du passé, c'est-à-dire ce que font les historiens. Alors évidemment, le rapport au passé dans une société donnée diffère selon les lieux et les temps. Chaque moment de l'histoire considère ce qui vient de se produire, l'événement, en fonction de ses propres critères, de ses appréhensions du monde. Dans notre société qui se définit comme celle de l'information, l'événement n'est pas caractérisé par l'historien. Il est donné immédiatement par les médias audiovisuels et écrits, ce qu'on appelle les nouvelles. Si elles sont considérées comme importantes, elles reçoivent des commentaires de la part d'experts, académiques ou non, et d'hommes politiques. Et il faut ajouter aujourd'hui le rôle des réseaux sociaux. Le point essentiel est que dans la production même de l'événement, on procède autant que possible à son interprétation dans ce qui, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, est devenu un temps réel. Un temps réel, c'est un temps enfin, vous avez une information, vous arrive pratiquement en même temps que l'événement se produit. Le temps réel est arrivé avec le télégraphe Morse à la fin des années 1840. Et j'ai eu l'occasion, dans les cours, de vous rappeler, vous signaler que la guerre de Crimée a été la première guerre à temps réel, puisqu'à la fin de la guerre de Crimée, il fallait à peu près 12 heures pour qu'une nouvelle arrive du front, Sébastopol, jusqu'à Paris ou à Londres. Et on sait, par exemple, que le cabinet de Jules Ferry, en 1884, si mes souvenirs sont bons, est tombé sur la nouvelle d'une défaite française en Indochine, à Lançon, qui est arrivé 3 ou 4 heures après les événements, je veux dire. Donc le temps réel a été instauré au XIXe siècle. Alors qu'auparavant, il fallait des semaines, voire des mois, pour qu'une nouvelle arrive. Il fallait 4, 5, 6 jours entre Paris et Marseille. Et immédiatement, pour le continent américain, pour la Chine, pour l'Inde, par rapport à l'Europe, avant le temps réel, il fallait des semaines, voire des mois, pour qu'une nouvelle puisse se produire. Je rappelle aussi l'exemple de temps réel magnifique, c'est le roman de Jules Verne, celui qui se passe, Michel Strogoff. Dans Michel Strogoff, les deux journalistes bloquent le télégraphe pour informer le monde de l'évolution d'une révolte en Sibérie. Et c'est vraiment la démonstration, donc, de ce temps réel. Alors, donc, avant, il fallait des semaines, voire des mois, pour qu'on apprenne quelque chose. Alors, les traces historiques sont composées, d'une part, de ce qu'une société a défini, à un moment donné, comme un événement, et qui a été enregistré comme tel par la presse, les chroniques, les mémoires, les ouvrages historiques, et d'autre part, par tout ce qui a été conservé du passé, soit pour un usage bureaucratique, c'est ce qu'on appelle de façon générique les archives, donc les textes, soit comme traces matérielles, c'est-à-dire les objets. Ces objets ont été ultérieurement interprétés par différentes sciences consacrées aux objets, c'est-à-dire les sciences qu'on peut appeler archéologiques. Donc l'histoire, entre guillemets, s'appuie. Enfin, vous avez d'une part les sources écrites au sens générique du terme, et d'autre part les sources qui sont des objets au sens générique du terme. Mais par exemple, une photographie aérienne est un objet, puisqu'elle nous enseigne un certain nombre de choses. Alors évidemment, pour des raisons de conservation, plus on s'éloigne dans le temps, en général, moins on dispose de traces, même si, en réalité, il peut y avoir des discordances. Il y a ce qu'on appelle des siècles obscurs. On sait infiniment plus de choses sur le siècle d'Auguste que sur le Xe siècle européen. Pourtant, il y a un millénaire de plus pour Auguste, mais il y a des siècles obscurs où peu de traces ne sont parvenues et des siècles où énormément de connaissances nous sont venues par l'archéologie, par la transmission des textes. Alors, l'ambition des historiens a été fixée dès l'époque ancienne par la volonté de conserver une information. C'est le fameux passage de l'introduction de la guerre du Péloponnèse du Thucydide, donc écrit à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Quant aux actions accomplies au cours de cette guerre, j'ai évité de prendre mes informations du premier venu et de me fier à mes impressions personnelles, tant au sujet des faits dont j'ai moi-même été témoin que pour ceux qui m'ont été rapportés par autrui. J'ai procédé chaque fois à des vérifications aussi scrupuleuses que possible. Ce ne fut pas un travail facile, car il se trouvait dans chaque cas que les témoins d'un événement en donnaient des relations discordantes qu'ils éprouvaient pour l'un ou l'autre camp, ou selon leur mémoire. Plutôt qu'un morceau d'apparat composé pour l'auditoire d'un moment, c'est un capital impérissable que l'on trouvera ici. Donc la grande ambition de l'historien, au départ, Thucydide, donc, qui est plus le père de l'histoire qu'Hérodote, c'est ce fameux Ctema es aei, une acquisition pour toujours, qui est le projet de l'historien. L'historien établit des faits à la suite d'une procédure critique qui l'amène à trancher entre les différentes versions de l'événement en discernant la fiabilité des sources et le déroulement vraisemblable et cohérent des événements. Alors donc, pour les anciens, si vous voyez le texte de Thucydide, il n'y avait d'histoire que d'histoire contemporaine au sens que l'historien devait comparer les témoignages de gens vivants ou de gens qu'il avait connus et que donc on quittait en quelque sorte le temps des contemporains, ce qu'on appellerait aujourd'hui une histoire du temps présent. Il n'y avait en quelque sorte plus que l'histoire n'était plus possible d'ailleurs dans Thucydide. La partie consacrée à l'époque antérieure à la guerre du Péloponnèse s'appelle l'archéologie, pas au sens que nous donnons évidemment, mais ça montre bien la différence entre histoire et archéologie pour les anciens. Alors au Moyen Âge, au contraire, on a fait la procédure inverse. Et on a mis en place au Moyen Âge les grandes méthodes de vérification. Alors ce n'est pas les historiens qui ont mis en place les méthodes de vérification, ce sont les juristes. Le problème du Moyen Âge, c'est qu'il y avait un certain nombre de textes, essentiellement des titres de propriété. Et il fallait en vérifier l'authenticité, le plus célèbre étant la fameuse donation de Constantin qui aurait donné au pape les territoires autour de la ville de Rome et qu'au XIVe siècle, on a démontré que c'était un faux écrit probablement à l'époque de Charlemagne en faisant l'analyse du style, des graphies, etc. Donc, la période médiévale a apporté ce prolongement dans l'histoire, mais surtout la notion de vérification documentaire. Mais pour que vous vérifiez des documents, il faut créer ce qu'on a appelé les sciences auxiliaires de l'histoire. C'est-à-dire, chaque fois, déterminer un savoir spécifique par rapport à un objet. La numismatique est une des monnaies, la sigillographie est une des sceaux, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, on a des méthodes nucléaires, enfin, ou biologiques, le carbone 14, l'analyse ADN, etc. Tout ça, ce sont des instruments de vérification de l'historien. Ce qui fait que l'historien aborde d'abord un monde immense de faits vérifiés. Résultat d'une accumulation pluricentenaire de données en soi totalement hétérogènes. La bataille de Waterloo a eu lieu le 18 juin 1815. Louis XIV est mort le 1er septembre 1715. Jules César est mort le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, et ainsi de suite. Ça, ce sont des ctema es aei, des acquisitions pour toujours. Alors, dans certains cas, on peut avoir de l'incertitude. On sait qu'il y a eu une bataille à Kosovo-Polier le 15 juin 1389, mais on n'est pas sûr de savoir qui l'a remportée. Finalement, le résultat a été très indécis, et c'est bien ultérieurement, des décennies après, qu'on a considéré qu'à Kosovo-Polier, les Serbes avaient été battus. Mais sur le moment, personne n'avait d'idée précise de ce qui s'était passé à Kosovo-Polier le 15 juin 1389. Donc, les procédures de vérification constituent la base essentielle de toute perspective historique. Et encore aujourd'hui, dans l'idée, quand vous traitez des fake news, vous traitez exactement la même façon dont les historiens traitent les données héritées du passé. D'où l'idée que toute remise en cause de faits avérés, puisque vérifiés, constitue du négationnisme. Il en est ainsi de la contestation de l'existence de chambres à gaz dans les camps d'extermination nazis, par exemple. C'est du négationnisme, puisque ce sont des faits qui ont été attestés, vérifiés par une multitude de procédures allant des témoignages, de l'archéologie, du travail dans les archives, et ainsi de suite. Ça, évidemment, pour une période, le XXe siècle, qui est hyper documentée. Pour des périodes peu documentées, la découverte de nouvelles sources peut susciter de nouveaux faits vérifiés. L'exemple parfait est l'archéologie préventive en France. À partir du moment où on a décidé qu'en France, pour tous travaux importants, il fallait faire une enquête archéologique, pour des canaux, des autoroutes, etc., des travaux urbains, on a complètement modifié l'idée que l'on avait de l'agriculture et de la démographie dans la Gaule celtique et romaine. En gros, on a multiplié par 2,5 la population de la Gaule par rapport à ce qu'on savait précédemment. Et ça, ces dernières décennies, exclusivement par l'archéologie préventive. Donc, on s'est aperçu que la Gaule n'était pas celle d'Astérix avec des forêts remplies de sangliers, mais qu'elle était intégralement cultivée et qu'il y avait des populations de plus de 10 millions d'habitants, etc., dans cette Gaule. Alors, il y a des événements qui sont apparus comme tels pour les contemporains, d'où le fait qu'on leur dit tout simplement dans les journaux « Ah, c'est un événement historique aujourd'hui !» C'est la première fois que gnangnan s'est passé. Le fait même d'avoir été ainsi considéré donne donc cette touche historienne à un événement précis par rapport aux autres. Ces événements, ou toute une série d'événements, servent aussi de repères temporels. Pour des pays qui ont connu la guerre, là, pendant des décennies, les gens vont se repérer en disant « c'était avant-guerre ». Alors, bon, la France a connu ça. Maintenant, c'est un terme qui disparaît parce que les générations qui ont connu l'avant-guerre ne sont plus là. Mais dans mon enfance, c'était un terme que j'entendais de façon constante. Et au Moyen-Orient, on vous dit avant-guerre, mais on ne sait plus laquelle. Donc, c'est ça. Alors, dans l'idéal de la profession historienne, ce serait aux historiens de définir les faits en fonction de leur questionnement de la documentation disponible. Mais ce n'est que partiellement vrai. L'histoire politique est d'abord la production des politiques. Et c'est dans une approche très monographique d'un sujet jusque-là peu étudié que l'historien produit des faits nouveaux grâce à son questionnement et à sa documentation. Un de mes jeunes collègues récemment a écrit une splendide biographie de Laval et pour la première fois, il a à peu près démêlé les sources de son enrichissement personnel. C'est une production de nouveaux faits avérés par un historien travaillant sur les archives de la famille Laval. Donc, il en est de même pour les périodisations. Alors, une périodisation, c'est l'isolement d'une période temporelle, enfin, d'un comptage temporel en fonction d'une question. C'est pour ça que les périodisations changent en fonction de la question posée. Donc, les gens du Moyen-Âge, rassurez-vous, ne savaient pas qu'ils vivaient au Moyen-Âge. Mais en revanche, les gens de la guerre froide savaient qu'ils vivaient dans la guerre froide. D'où d'ailleurs notre habitude, depuis quelques décennies, de définir la période dans laquelle nous appartenons. Donc nous avons été récemment post-modernes. Et très curieusement, maintenant on est post-colonial, on ne sait pas très bien comment. L'existence des seules traces ne suffit pas à produire les faits. Le questionnement d'historien est aussi important. La lecture des sources induit de nouvelles questions qui, à leur tour, peuvent produire de nouveaux faits et de nouvelles sources. Il en résulte que si les faits sont des acquis pour toujours, leur lecture est perpétuellement renouvelée du fait de la succession des problématiques. On peut même avoir en théorie, même si ce n'est pas exactement le cas, un périmètre constant de sources sur un sujet. Par exemple, la Révolution française ou l'Athènes de Périclès. Mais même si on a un périmètre constant de sources, les questionnements, lui, changent, l'interrogation change, et donc les résultats de l'enquête historique changent. Alors, en fait, Acheva compose de nouvelles questions, plus quelque part aussi, on découvre par les questions mêmes de nouvelles sources. Mais ça, c'est valable pour la Révolution française et pour l'Athènes de Périclès. L'archéologie, par ailleurs, donne quand même de nouvelles informations de façon régulière. Mais même si on restait sur un périmètre constant de sources, l'interprétation historique se modifierait. C'est le sens de la fameuse expression du philosophe italien Croce, toute histoire est histoire contemporaine, parce qu'elle est le produit d'un historien à un moment précis, même s'il interroge des sujets sur des siècles en arrière. L'historien appartient à l'histoire et son questionnement interprétatif est en quelque sorte déjà révolu au moment même où il est émis. D'où le fait que beaucoup d'historiens comme moi sont passés à une narration au présent, contrairement aux historiens des périodes précédentes qui faisaient une narration au passé, si vous regardez la stylistique des historiens. Une narration au passé tend à geler comme une acquisition pour toujours, tandis qu'une narration au présent tend à montrer la fragilité même de la personne qui pose la question et qui fait la description. Le questionnement ne devient un acquis pour toujours que dans la mesure où il devient à son tour un fait historique, à l'intérieur de la chaîne des questionnements que constitue le domaine dit de l'historiographie. Mon questionnement sur les sociétés du Proche-Orient, sur la théorie de l'histoire, appartient à une chaîne de questionnements. Des gens m'ont précédé et d'autres me suivront, et donc je ne deviendrai un fait historique à l'intérieur d'une chaîne. Alors passons maintenant aux choses plus violentes après ce début. Alors, c'est le problème de la destruction de la chrétienté anatolienne. Alors, on ne va pas ici traiter toutes les données factuelles, toutes les interprétations de tout ce qui s'est passé entre 1913 et 1923 et qui ont amené la disparition de la quasi-totalité de la chrétienté anatolienne, qui était une des plus anciennes, puisqu'elle, comme vous le savez, elle date des premières décennies du christianisme lui-même. Regardez les épîtres de saint Paul, ils s'adressent à des chrétiens anatoliens. Donc, par l'évidence, a montré que dans cette période-là, la chrétienté anatolienne a disparu. On peut discuter sur les données démographiques en prenant compte des données de l'administration ottomane qui ont probablement tendance à sous-enregistrer le nombre d'habitants chrétiens avant 1914, tandis que les sources chrétiennes ont tendance inversement à surestimer le nombre d'habitants. Alors, il faut ajouter que dans les événements de cette période, une partie de la population considérée, essentiellement des femmes et des enfants, ont été converties de force à l'islam. Donc, il faut les retirer du nombre de morts, mais pas nécessairement du nombre de disparus. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais si on prend le cap spécifique des Arméniens, on est à peu près d'accord au moins sur un thème, c'est que les deux tiers de la population arménienne a disparu dans cette période de 10 ans, avec évidemment une grosse concentration sur 1915. Dans cette affaire, nous avons les témoignages des survivants, ainsi que d'un grand nombre de personnes ayant assisté aux événements. Des étrangers d'abord, comme des Allemands, des Autrichiens qui étaient des alliés de l'Empire ottoman, donc ils ont vu ce qui se passait sous leurs yeux, des Américains qui étaient puissance neutre, donc il y avait des diplomates américains sur le terrain, et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de sources archivistiques ottomanes, puisque les Turcs, ces dernières années, ont ouvert assez largement leurs archives sur la période de la Première Guerre mondiale. Le vocabulaire de l'époque réunit ces faits sous le terme de massacre, dont personne n'a vraiment cherché à nier l'existence, on a aussi utilisé, comme au XIXe siècle, le terme « atrocité ». La discussion a longtemps porté sur la part des autorités dans ces massacres et ces atrocités. S'il y a eu une intention de la part de l'appareil d'État ottoman de détruire la population arménienne en 1915, ou si les ordres de déportation donnés au début du printemps 1915 n'avaient qu'une justification militaire et sécuritaire. S'il y aurait eu massacre, cela aurait été le fait d'un effondrement de l'ordre public, c'est-à-dire de l'impuissance des autorités. C'est plus ou moins encore la thèse officielle de l'État turc un siècle après. Une variante admet qu'étant donné le contexte général d'insécurité et de violence en Anatolie avec le déclenchement de la Grande Guerre, les ordres de déportation ne pouvaient aboutir qu'à des massacres, ne serait-ce que du fait de l'ampleur des violences communautaires dans les décennies précédentes. Le consensus actuel de la recherche est net. Il y a bien eu, en 1915, des ordres d'extermination de la population arménienne et la destruction de cette population a été le fait des autorités ottomanes. Cela est considéré comme des faits acquis et vérifiés. On peut parfois s'interroger sur la participation de certaines populations au massacre, ce qui serait une violence, entre guillemets, civile, à côté de celle de l'État, c'est-à-dire, d'une part, il y a l'appareil d'État qui massacre, l'armée, la gendarmerie, etc. Et puis, d'autre part, il y a les voisins qui massacrent, les Kurdes, etc. Mais c'est la violence d'État qui compte, puisque la violence civile est quelque part enclenchée par la violence de l'État. Donc, la remise en cause de ces données factuelles constitue en soi du négationnisme. Alors, plus complexe est la question de la qualification. Certes, sur le moment, les autorités alliées avaient évoqué des crimes contre l'humanité et la civilisation. En fait, les Français, les Russes avaient proposé crimes contre l'humanité et la chrétienté, mais les Français avaient trouvé que contre la chrétienté n'était pas laïque, et donc ils ont remplacé chrétienté par civilisation. Mais ça ne correspond à aucune imputation juridique. Il faut attendre le procès de Nuremberg pour que crime contre l'humanité entre dans le droit, même s'il y a eu des tentatives de procès en 1919 à Constantinople qui ont avorté. D'où la question du terme de génocide. Il a été inventé par Raphaël Lemkin durant la Seconde Guerre mondiale pour définir la politique nazie. Auparavant, le même Lemkin avait proposé le crime de barbarie et de vandalisme. Vandalisme, on rappelle, est un terme inventé sous la Révolution française par l'abbé Grégoire pour condamner les destructions du patrimoine par les révolutionnaires, en particulier dans la période dite de la déchristianisation, en 1794. Alors reste la question de la définition du génocide. C'est un peu le sujet central de cette communication. Il faut distinguer soigneusement entre un usage purement juridique du terme, qui correspond à des décisions de cours de justice, et un usage plus large du concept, cette fois dans le domaine des sciences sociales et dans les discours plus généraux. Le problème d'aujourd'hui, c'est que le génocide est considéré comme le crime suprême, le crime des crimes, et donc il a, dans les polémiques, dans les concurrences de victimes, une fortune considérable, d'où une pluralité d'usages. On sait que Lemkin, quand il a forgé le concept durant la Seconde Guerre mondiale, avait aussi à l'esprit la destruction des Arméniens, même si, bien évidemment, il était d'abord concerné par les événements en cours, en particulier l'essor des Juifs d'Europe. Dès la fin de la guerre, il a travaillé à faire entrer cette notion dans le droit. Il a échoué en ce qui concerne Nuremberg, qui se fonde sur les notions de crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité, commis entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, à l'exception de ceux commis dans le cadre du complot. Alors là, c'est un peu compliqué tout ça. Nuremberg, il fallait éviter autant que possible d'apparaître, de se fonder sur un droit rétroactif, parce que les juristes n'aiment pas la rétroactivité du droit. Donc la première inculpation de Nuremberg était crime contre la paix, dans la mesure où l'Allemagne avait signé le pacte Briand-Kellogg de 1928 qui interdisait l'usage de la guerre. Donc là, il n'y avait pas rétroactivité, puisqu'il y avait crime de guerre. Le crime de guerre a toujours fait partie du droit coutumier de la guerre. Et donc, on a rajouté à la fin, mais seulement à la fin, cette notion de crime contre l'humanité. Du coup, à cause de cet ensemble de considérations, dont le premier était le complot contre la paix, conspiracy en anglais, on a limité la période à la période officielle de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945. Donc, par exemple, la nuit de cristal ne fait pas partie des événements considérés, puisqu'elle n'est pas dans la période définie par la Seconde Guerre mondiale. La force de Lemkin et de ses partisans est de mettre en avant une définition des génocides sans référence historique, même si tout le monde a à l'esprit les crimes commis par le nazisme. Il ne s'agit donc pas chez Lemkin d'une reconnaissance d'actes passés, mais d'une prévention d'actes à venir. C'est en s'appuyant sur la force de l'antifascisme que Lemkin obtient le vote le 9 décembre 1948 à l'Assemblée générale de l'ONU au Palais de Chaillot, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Dans les discussions en commission et en assemblée, les préoccupations des juristes et des politiques ont été prises en compte, ce qui a conduit à une série de compromis qui sont autant de retranchements par rapport à la notion initiale de génocide telle que Lemkin l'avait définie. Le premier retranchement a été la suppression de la mention de tout groupe politique et social. Après tout, le fascisme au sens générique du terme venait d'être mis hors la loi et il n'était pas admissible pour le Bloc de l'Est de mentionner la destruction physique d'un groupe social. Par exemple, les millions de Koulaks massacré par le Staline, le stalinisme dans les années 20 et 30, en Union soviétique. Le second retranchement a été la suppression de la notion de génocide culturel qui visait en priorité les politiques d'assimilation forcée menées en Pologne par la Russie et l'Allemagne avant 1914. Lemkin était un juif polonais, donc il savait de quoi il parlait. Il était partisan d'un nationalisme culturel juif non territorial à côté du sionisme. Mais en 1947, bien évidemment, les puissances coloniales ne pouvaient pas accepter de faire entrer dans le droit la notion de génocide culturel, puisque la logique du projet colonial était un projet d'assimilation. Un point supplémentaire a été d'écarté ce qu'on appellerait aujourd'hui le nettoyage ethnique, ce qui posait le cas des Arabes de Palestine en 1948. Mais deux jours après, donc le 11 décembre 1948, la même Assemblée générale vote la résolution 194-3 qui comprend dans son article 11 ce qu'on appellera ultérieurement le droit au retour des réfugiés palestiniens. Et un petit peu avant, toujours dans la même semaine pratiquement, c'est le vote de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un triplé, en fait, qui se passe en décembre 1948 à Chaillot. Et ça m'a étonné qu'on n'en a pas fait la mémoire récemment, puisqu'on était au 48-2008, on était au 70e anniversaire, peut-être au 75e, on verra, de ce triplé. Dans son inlassable action, Lemkin a multiplié les références historiques allant des Assyriens de l'Antiquité, allant jusqu'aux Assyriens de l'Antiquité, pardon, mais prudemment, il s'est abstenu de faire référence aux Arméniens. Il voulait obtenir la ratification la plus rapide possible de la République de Turquie. Il fallait 20 votes à l'ONU pour rendre la Convention valide, et à l'époque, il n'y a pas énormément de membres à l'ONU. Et de fait, le Parlement turc a voté la ratification le 29 mars 1950, ce qui a fait de la Turquie l'un des premiers signataires de la Convention. La Convention est entrée en vigueur le 16 octobre 1950. La grande force du texte, c'est son orientation vers l'avenir, c'est-à-dire une prévention, sa décontextualisation, puisqu'il n'est même pas question de référence à un état de guerre, quel qu'il soit, et une insistance sur l'intentionnalité de détruire. Et on a pu reprocher au texte, inversement, son flou sur la notion quantitative. Donc, je cite le texte voté en décembre 48. Dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Petit a, meurtre de membres du groupe. Petit b, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Petit c, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Petit d, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe. Petit e, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Là, il y a une référence implicite à l'Arménie en 1915, entre autres. Le tout en partie a été perçu par les juristes américains comme pouvant s'étendre au lynchage des Noirs aux États-Unis, de même que l'intégrité physique et mentale ou mentale pouvait concerner la ségrégation en vigueur aux États-Unis dans cette période. Il en est résulté un débat particulièrement vif. Les partisans de la Convention ont pu ainsi, dans un même avis, donner les positions contradictoires que le crime de génocide était un crime international, donc ne concernant pas la politique intérieure, et qu'il ne suffisait pas de tuer des gens d'une race ou d'une religion différente, il faut avoir l'intention de détruire le groupe comme l'ont fait les Turcs quand ils ont exterminé 1,200,000 Arméniens, donc ça dans les débats de l'époque. Alors, du côté des partisans, on trouve alors, outre les Juifs américains, les organisations représentant les immigrants des pays tombés sous domination soviétique. Les États-Unis voudraient bien accuser l'Union soviétique et ses alliés de commettre des génocides, mais il faudrait d'abord ratifier la Convention. Quant à Lemkin lui-même, il refuse d'admettre que la ségrégation raciale soit comparable au génocide. Après tout, les gens continuent de vivre, même dans une situation diminuée. Le principal inconvénient de la définition de Lemkin est de séparer les populations en faisant des victimes un peuple différent de celui d'où viennent les bourreaux, alors que souvent, ils ont la même nationalité. En un sens, la définition de Lemkin entérine la logique des auteurs du crime, puisqu'il fait d'une partie de la nation des éléments extérieurs à la nation. Après tout, les Arméniens, en 1915, étaient des sujets ottomans. Et c'est tout le problème qu'il y a eu en Europe au lendemain de la Shoah. Reconnaître une spécificité à la Shoah était-il entériner la séparation des Juifs et des non-Juifs telle qu'elle était dans le nazisme? C'est tout le débat qu'il y a eu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, après la mort de Lemkin, en 1959, le flambeau du combat pour la ratification aux États-Unis de la Convention a été repris par le sénateur William Proxmire, je sais pas comment, qui était un inlassable avocat. C'était un individu particulièrement original qui se targuait de ne recevoir aucune contribution privée ou publique pour ses campagnes électorales. Donc, il dépensait que quelques milliers de dollars de sa propre poche, ce qui aujourd'hui paraîtrait complètement fou dans les États-Unis d'aujourd'hui. Et ce sénateur avait pris l'habitude de prendre la façon dont Caton l'Ancien faisait à Rome. Vous savez, Caton l'Ancien terminait toujours ses discours, quel que soit son sujet, par « il faut détruire Carthage ». Donc, quel que soit le sujet sur lequel le sénateur intervenait au Sénat, il terminait toujours par « il faut ratifier la Convention du crime de génocide ». Et finalement, le Sénat américain votera la ratification en février 1986 et les dernières mesures de ratification auront lieu le 4 novembre 1988, ce qui intégrera la notion de génocide dans le droit américain. Alors, ce que Lemkin avait fait avait été d'inventer un concept juridique sans pouvoir lui donner une portée effective du point de vue pénal. En 1968, René Cassin, dans un discours de réception d'un doctorat honoris causa à Jérusalem, pouvait noter que les génocides restaient impunis du fait de l'absence de juridiction internationale. Il faut attendre la fin de la guerre froide pour que l'on mette en place les instruments juridiques pour combattre, enfin condamner les génocides, soit la mise en place de juridictions ad hoc, comme par exemple le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, suit pour le Rwanda, soit la mise en place d'une Cour internationale de justice dans le statut de Rome sur lequel nous reviendrons. Alors, les décisions des années 90 posent des questions qui restent encore difficiles puisque l'essentiel de l'appareil juridique qui couvre la notion de crime de génocide sont des institutions occidentales. Et donc, il y a des critiques en disant que c'est encore un coup des Occidentaux qui. Alors, on voit tout de suite un certain nombre de problèmes. Sur le plan juridique, les millions de morts du Cambodge ne sont pas considérés comme un génocide, puisqu'ils visent des groupes sociaux et des groupes ethniques. Ce sont donc des crimes contre l'humanité. Alors, il y avait eu une procédure qui a plus ou moins été remportée pour définir comme génocide au Cambodge, mais exclusivement les non-cambodgiens qui ont été tués par les Khmer Rouges, c'est-à-dire des Vietnamiens et des Cham, qui étaient des musulmans locaux. Mais que des Cambodgiens tuent des Cambodgiens ne peut pas être un génocide selon la définition de Lemkin, qui est la seule définition juridique. Alors, aussi terrible que ça puisse paraître, il en est de même pour la destruction des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, puisque l'ONU ne peut se donner de compétences rétrospectives pour des actes commis antérieurement à la ratification de la Convention. Ce qui sert comme référent essentiel à la notion de génocide ne peut l'être d'un point de vue purement juridique. C'est la même chose pour les Arméniens. Puisque sinon, ce serait entrer sur une rétroactivité. D'ailleurs, les décisions de justice frappant les négationnistes de la destruction des Juifs d'Europe ont toujours été pour négation de crimes contre l'humanité, avec, dans le droit français, loi Guesso, une référence explicite au tribunal de Nuremberg. Certes, certains codes criminels européens évoquent la négation du génocide commis par les nazis, d'autres contournent la difficulté en parlant de négation de l'Holocauste. Les historiens, pour qualifier le dossier arménien, peuvent utiliser massacre ou atrocité, puisque c'est le vocabulaire à l'époque des faits, violence de masse, parce que ça correspond aux faits, et surtout destruction intentionnelle, puisque c'est le consensus actuel de la recherche. On pourrait ainsi calquer l'expression d'Arnaud Mayer pour la Shoah, Barnum Mayer utilise l'expression judéocide en parlant d'arménocide, et d'ailleurs certains l'ont fait dès 1967. Et de façon plus générale, pour tout ce qui est antérieur aux années 1990, on donne un nom spécifique à chacune de ces actions. Les massacres d'Arméniens prennent un nom, la Shoah pour les Juifs, autre chose pour les Assyro-Chaldéens, et ainsi de suite. On donne un nom local pour ne pas avoir à utiliser le terme de génocide, parce que ça se heurte à cette difficulté juridique. Du coup, on se heurte à la question des lois mémorielles et des déclarations de reconnaissance par un Parlement qui est des plus incertains, puisqu'un Parlement n'est pas une cour de justice et qu'il se trouve en dehors du champ défini par la Convention de décembre 1948 et du statut de la Cour pénale internationale de 1998. C'est donc ce qu'on appelle le statut de Rome. Alors, qu'est-ce que c'est le statut de Rome ? C'est que pour la Cour internationale de justice, on fusionne Nuremberg et Lemkin, puisque on ajoute crimes contre l'humanité et génocide dans la compétence de la Cour internationale de justice. Mais on rappelle bien dans le statut de Rome, la Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant après l'entrée en vigueur du présent statut. Donc ce qui est antérieur à 1998 ne peut pas être jugé par la Cour internationale de justice. Alors que les lois mémorielles sont la plupart du temps de nature rétrospective et donc ne peuvent se rattacher à un jugement punissant les crimes du nazisme ou des actions de la Cour pénale internationale. Alors donc on se trouve dans la contradiction de l'existence de crimes définis aujourd'hui comme tels dans le corpus juridique, dont on trouve de nombreuses occurrences dans l'histoire, avant qu'ils ne soient définis comme crimes, soit parce que c'était des faits de société, par exemple l'esclavage. L'esclavage a été la norme sociale depuis la plus haute antiquité jusqu'au XIXe siècle, et pas simplement dans le monde occidental. En Afrique, dans le monde musulman, ailleurs, l'esclavage était un fait normal. D'ailleurs, pour les historiens, la question n'est pas le maintien de l'esclavage, c'est la question est comment se fait-il qu'à partir d'un certain moment, l'esclavage a été condamné ? Ça, c'est à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ça, c'est la nouveauté. Parce que sinon, les esclaves, vous en aviez depuis des millénaires. Et l'islam et le christianisme s'étaient parfaitement accommodés l'esclavage. Soit parce qu'on n'avait pas le moyen de penser ces actes en tant que tels, comme génocide, avant la mise en place du droit d'après 1945. Alors, la question est de savoir, si on remonte à la plus haute antiquité, qui a le droit de dire que ce sont des génocides ? Donc, on est dans le conflit entre les deux garces, comme je vous le parlais tout à l'heure, Thémis et Clio. Thémis, c'est le droit, et Clio, c'est l'histoire. Alors, elles ont des relations compliquées, Thémis et Clio. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, les instruments de vérification ont été d'abord la production de Thémis. C'est Clio qui a récupéré les instruments de Thémis pour faire l'étude des archives. Alors, on parle parfois de réalité de faits historiques clairement établis tels que l'Holocauste. Ça, c'est la décision de la Cour européenne de justice dans la condamnation de Garodi en 2003. Il s'est agi alors de revenir aux faits clairement établis pour élaborer une définition des génocides qui soit de nature historique et non plus juridique. L'arrêté du 3 février 2015 de la Cour internationale de justice sur la plainte de la Croatie de 1999 contre la République fédérale de Yougoslavie pour génocide commis entre Croatie entre 1991 et 1995 et la demande reconventionnelle de la Serbie en 2010 apporte des précisions utiles sur la notion de génocide. En ce qui concerne l'application de la Convention, la Cour considère que l'interdiction des génocides revêt le caractère d'une norme impérative, jus cogens, qui s'applique contre tous, erga omnes. On passera sur la discussion sur le fait de savoir si les États successeurs de la Yougoslavie sont liés ou non par la signature de cette dernière de la Convention, puisque c'est toute la question de la transmission de l'État. Le plus intéressant dans la décision est les éclaircissements apporté ici. Le génocide comporte deux éléments constitutifs. L'élément matériel, soit les actes qui ont été commis, ou l'actus reus en bon latin, et l'élément moral, soit l'intention de détruire le groupe tel comme tel, ou la mens rea. Bien que distincts pour les besoins de l'analyse, ces deux éléments sont liés. Ainsi, la détermination de l'actus reus peut nécessiter un examen de l'intention. En outre, la caractérisation des actes et leur articulation les uns par rapport aux autres peuvent contribuer à la déduction de l'intention. Donc, pour qu'il y ait génocide, il faut non seulement qu'il y ait eu destruction effective, mais qu'il y ait eu intention de détruire, dit la Cour. On dira, dans le cas précis, que les événements couverts ne sont pas des génocides. Parce que certes, il y a eu destruction, mais pour faire fuir les gens, pas pour les détruire. Donc, la Cour implicitement dit qu'il y a un nettoyage ethnique, mais que le nettoyage ethnique n'est pas un génocide. En revanche, dans un autre jugement, la Cour va définir le massacre de Srebrenica comme un acte de génocide. Pas comme génocide, mais comme acte de génocide. Parce que là, il y a intention de détruire et destruction effective dans une série d'événements qui constituent un génocide. Donc, Srebrenica est un acte de génocide. Et donc, la Cour a introduit la notion supplémentaire d'acte de génocide à côté de la notion de génocide. Alors, en ce qui concerne 1915, on peut admettre, en dépit de l'absence de jugement, qu'il y a bien élément matériel et élément intentionnel, celui-ci se déduisant des faits et des sources. D'où la nécessité de passer de la définition juridique à la définition historique. Il est évident que le génocide, non pris dans le cadre d'une décision de justice, mais comme un concept utilisé dans la science historique, a sa validité. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans le champ des études, puisque progressivement, les Genocide Studies, enfin les Holocaust Studies, qui étaient donc consacrés à la Seconde Guerre mondiale, sont devenus de façon plus générique des Genocide Studies, donc des études de génocide qui dépassent le champ de la Seconde Guerre mondiale pour aborder la comparaison et la contextualisation. Alors, comme souvent, les concepts d'historiens sont des concepts empruntés aux voisins. Les historiens sont épouvantables, ils piquent des choses à la science politique, à la sociologie, à la psychanalyse, etc. Vous ne pouvez pas laisser un concept sur la table sans qu'un historien s'en empare discrètement. C'est comme les briquets et les stylos. Voilà. La concept historique, selon la définition d'Antoine Prost, atteint une certaine forme de généralité parce qu'il résume plusieurs observations qui ont enregistré des similitudes et dégagé des phénomènes récurrents. Ça, c'est un concept historique. Alors, plus clairement, vous comprendrez qu'on parle de cité antique. Il y a un ensemble de faits récurrents qui permettent d'isoler une idée qui s'appelle la cité antique, une autre idée qui s'appelle la société féodale, le régime seigneurial, etc. Ce sont des concepts d'historien qui sont fondés sur des récurrences et des comparaisons. Ce sont donc des idéotypes selon la définition de Max Weber, c'est-à-dire la réunion d'un ensemble de caractéristiques qui permettent de comprendre des situations historiques concrètes sans nécessairement que toutes ces caractéristiques se retrouvent toujours dans les phénomènes étudiés. L'intérêt de la démarche historique est de poser un arrêt à la concurrence des victimes d'un côté et à la dilution de la notion de l'autre. Chaque destruction de peuple et de communauté humaine comporte, comme pour tout événement historique, son côté unique. mais en même temps, on peut discerner un certain nombre de traits récurrents, et la mise en valeur des spécificités d'une destruction permet de mieux comprendre les autres destructions. On évite de se lancer ainsi dans une absurde concurrence des victimes, parce qu'il n'existe pas d'unité de souffrance qui puisse introduire une comparaison. Un enfant arménien, un enfant ukrainien et un enfant juif sont des enfants tués, et on ne peut pas dire que l'un apporte plus que l'autre ou vaut autant en dehors, évidemment, du degré de proximité que l'on peut avoir avec les victimes. C'est là où la phrase de Stéphane Courtois dans le livre noir du communisme, en 1997, je cite, « La mort de faim d'un enfant de Koulak ukrainien délibérément acculé à la famine par le régime stalinien vaut la mort d'un enfant juif du ghetto de Varsovie, et pour le moins un non-sens, sinon une obscénité. » Le danger inverse est celui de la dilution en même temps, en mettant sur le même plan les violences du nazisme et les violences coloniales, comme le faisait par exemple Jacques Vergès au procès Barbie. Là encore, on est conduit à faire la distinction entre les violences de masse des époques anciennes et les génocides de l'époque contemporaine. Il est bien connu que les Assyriens, voire les Romains, pratiquaient les massacres et la terreur dans leurs conquêtes. On estime, d'après les calculs donnés par les chiffres donnés par la guerre des Gaules et d'autres textes, que plus d'un million de Gaulois sont morts dans la guerre des Gaules de Jules César. Donc, si ce n'est pas un génocide. Les Mongols ont laissé aussi un souvenir terrifiant, en plus de destruction des villes, de populations entières. On pourrait évoquer, par exemple, les atrocités de la guerre de 30 ans en Europe au XVIIe siècle. Plus complexe est la violence coloniale. Dans la mesure où l'on considère les populations à conquérir comme barbares, voire sauvages, on s'affranchit du droit des gens et on applique sans retenue la politique de terreur qui peut prendre une dimension exterminatrice, en particulier pour les peuples dits sauvages. Pour les gens du XIXe siècle, il était considéré comme évident que les États-Unis menaient une politique d'extermination des populations indiennes. Napoléon III, quand il va en Algérie, il dit aux Arabes d'Algériens, « Moi, je ne suis pas comme les Américains qui massacrent la totalité de la population indienne, moi, je vous sauve la vie. » Mais donc, on voit le chef de l'État français, en 1864, dire « Les États-Unis détruisent la population indienne. » C'était un fait reconnu. Et certains historiens considèrent que le sort des Héréros dans le sud-ouest africain allemand, l'actuel Namibie, serait le premier génocide du XXe siècle. Il n'en reste pas moins que, sur plusieurs millénaires, l'histoire est largement composée de crimes contre l'humanité, même si on s'en tient à une application rétrospective, comme dans la loi Taubira de 2001, qui qualifie la traite négrière de crime contre l'humanité. Avant son interdiction partielle en 1807 par la Grande-Bretagne à l'intérieur de l'Empire britannique et générale en 1815 par le Congrès de Vienne, qui met fin aux guerres napoléoniennes et qui interdit la traite négrière. Il y a un magnifique texte de Chateaubriand sur les Anglais qui veulent nous empêcher d'avoir des esclaves. Il faut que je vous donne ça un jour, c'est assez splendide. La traite non seulement négrière était juridiquement admise. Il y avait aussi une traite de blanche. D'ailleurs, la première application de la prohibition de la traite a été le bombardement d'Alger par les flottes européennes pour mettre fin à la course barbaresque puisque les Européens étaient mis en esclavage, donc c'était considéré comme de la traite. Donc ce n'était pas une traite noire, c'était une traite blanche. L'inconvénient des lois mémorielles et qu'elle constitue autant d'anachronismes, sans parler d'un sentiment de supériorité morale de notre présent sur le passé. Et ça, c'est un sentiment que je trouve insupportable. Puisqu'après tout, dans 50 ans, les gens nous trouveront des tas de choses et ils feront de la repentance pour ce que nous avons commis, nous, et ainsi de suite. Alors, l'historien Mark Levin, qui est celui qui a le plus travaillé sur la notion de génocide dans une série de 4 volumes, sur les génocides en histoire qui n'ont pas été traduits en français, a pu donner ainsi une définition idéale typique du génocide. Un génocide se produit quand un État, percevant que l'intégrité de son programme est menacée par une population prise dans son ensemble, définie par l'État comme une collectivité organique ou par une série de collectivités, cherche à régler la situation en ayant recours à l'élimination physique systématique en masse de cet ensemble dans sa totalité, jusqu'à ce qu'il ne soit plus perçu comme une menace. Et là, on voit très bien que Mark Levin, après avoir recensé les génocides et les destructions de masse sur de quelques siècles, met bien en liaison la violence de masse avec la menace. Il y a menace perçue, et c'est cette menace perçue qui enclenche le génocide, les crimes contre l'humanité, la destruction de masse. Alors, on doit admettre, pour que les génocides conservent leur caractère intelligible, dans le cadre d'une démarche comparative, qu'il faut en limiter l'analyse à la période contemporaine, c'est-à-dire à partir du XIXe siècle. Alors, il y a certes ambiguïté concernant la Révolution française, où, en ce qui concerne l'usage de la terreur et du massacre, on a déjà l'opposition entre l'interprétation qui est une justification par les circonstances et celle qui est une condamnation par le projet. Les morts de la Révolution française, c'est posé dans la plus grande partie de l'historiographie comme étant soit le produit d'un projet, créer un homme nouveau, soit par le produit des circonstances, la contre-révolution, la guerre avec les autres puissances. Donc, c'était les deux clés depuis le XIXe siècle de l'interprétation de la violence révolutionnaire. Alors, il faut ajouter que ces dernières interprétations, aujourd'hui, sont remises en cause, ne serait-ce qu'on fait disparaître la notion de terreur pour la période révolutionnaire. Parce qu'on dispose maintenant d'outils informatiques, donc on met tous les textes de la Révolution française sur on recherche les occurrences du mot terreur. Or, il n'y en a pratiquement pas. La terreur a été inventée par les vainqueurs de Robespierre pour condamner le groupe de Robespierre. Mais avant la mort de Robespierre, on ne parlait pas de terreur. Et tout le monde a ensuite embrayé sur la définition des vainqueurs de Robespierre. Jean-Clément Martin en a fait une brillante démonstration récemment. Et donc lui, il parle plus pour les violences de la période révolutionnaire du fait que les sociétés du XVIIIe siècle européen étaient des sociétés violentes, que certes les Français de la Révolution ont commis de terribles violences, mais que ces violences étaient communes dans l'Europe du temps. D'où la question de savoir si la répression de la Vendée était ou non un génocide. Première réponse, Louis XIV faisait la même chose quand il y avait des révoltes paysannes. Il travaillait exactement comme l'ont fait les révolutionnaires. Clément Martin a beaucoup travaillé et refuse la qualification de génocide pour la Vendée, même s'il y a eu 250 000 victimes. On notera qu'à l'époque même, Gracchus Babeuf avait qualifié la politique menée de populocide, c'est-à-dire qu'il était grammaticalement plus correct que Lemkin. Puisque Lemkin met un suffixe latin avec un suffixe grec, tandis que Babeuf met correctement un terme. Ça c'est un détail. On pourrait aussi ajouter que les pontons, c'est-à-dire les prisons flottantes des Britanniques durant la période révolutionnaire, peuvent être considérés aussi comme l'amorce des camps de concentration. Vu ce qui s'est passé là-dedans. L'analyse comparée des génocides permet de construire des grilles interprétatives qui peuvent opposer des intentionnalités de longue durée sur plusieurs décennies, inscrivant dans un projet politique et des approches circonstancialistes, c'est-à-dire mettant en relief un passage à l'acte lié à une perception d'un danger immédiat et mortel. Ah, c'est l'opposition, comme on l'a dit tout à l'heure, entre les circonstances et le projet. On peut même, ce que fait Levin, discerner des situations pré-génocidaires qui ne débouchent pas sur des génocides. Il y a un certain nombre de signes avant-coureurs, mais l'événement déclencheur ne se produit pas. De même, on peut placer les génocides dans le contexte d'une guerre civile européenne qui irait de 1914 à 1945, qui comprend aussi des guerres entre États et des guerres civiles, et qui pourrait être définie comme des radicalisations cumulatives, où la fin justifie les moyens, et où on a recours à l'argument du moindre mal. L'argument du moindre mal, c'est qu'une violence, quelle qu'elle soit son ampleur, permet d'éviter des violences encore plus grandes. Exemple, Hiroshima. Est-ce un génocide ? Non, disent des Américains, ne serait-ce qu'Hiroshima a mis fin à la guerre. Donc, il a sauvé des centaines de milliers de personnes. On a pu aussi définir les génocides comme allant des périphéries géographiques de l'Europe, de la Baltique à la Méditerranée, en passant par les Balkans et l'Anatolie, où la constitution de l'État national passe par une homogénéisation ethnico-religieuse qui implique l'élimination-extermination de ceux qui sont devenus brusquement des allogènes. Ce sont les fameuses terres de sang, les Bloodlands, dont parlent aujourd'hui les historiens. Alors, on peut continuer la discussion, mais il faut rappeler deux choses. D'abord, les concepts historiques appartiennent à l'histoire, comme dit Antoine Prost. Les concepts ne sont pas des choses, à certains égards, ce sont des armes, en tout cas des outils avec lesquels les contemporains, mais aussi les historiens, s'efforcent de faire prévaloir une mise en ordre du réel et de faire dire au passé sa spécificité et ses significations. Ni extérieur au réel, ni collé à lui comme des signes parfaitement adéquats aux choses, ils entretiennent avec les réalités qu'ils nomment un écart, une tension où se joue l'histoire. En même temps qu'ils reflètent le réel, ils lui donnent forme en le nommant. Cette relation croisée de dépendance et de conformation fait l'intérêt et la nécessité de l'histoire des concepts. De même que l'histoire est à la fois travail sur le temps et travail du temps, elle est le travail sur les concepts et travail des concepts. Mais là, c'est donner une vision très désincarnée de l'histoire. Si on admet que le concept de génocide, aussi bien dans sa définition juridique qu'historique, est une mise en ordre du réel orientée tout aussi bien vers le passé dans un but de compréhension que vers l'avenir dans un but de prévention, on risque de ne pas prendre en compte qu'il est d'abord une immense souffrance portée par les survivants des victimes et leurs ayants droit. Le paradoxe, c'est que l'action destinée à détruire un peuple est devenue, par le biais de la mémoire collective, l'élément qui maintient la cohésion de ce peuple composé de victimes et de leurs décédents. Il est plus fort que le référent religieux qui était le principe d'union avant la catastrophe. C'est le cas des Arméniens, par exemple, ou des Assyro-Chaldéens, voire des Juifs, où le référent à la Shoah est plus important aujourd'hui que le référent au judaïsme. Alors, la tentation est alors de sacraliser l'inexprimable. C'était la position de Claude Lanzmann. Je cite, « Dirigé sur l'horreur, un regard frontal exige qu'on renonce aux distractions, aux échappatoires, d'abord à la première d'entre elles, la plus faussement centrale, la question du pourquoi, avec la suite indéfinie des académiques frivolités ou des canailleries qu'elles ne cessent d'induire. Hier, it's kein warum, ici, il n'y a pas de pourquoi. » Primo Levi raconte que la règle d'Auschwitz lui fut enseignée dès son arrivée au camp par un garde SS. Pas de pourquoi. Cette loi vaut aussi pour qui assume la charge d'une pareille transmission, car l'acte de transmettre seul importe et nulle intelligibilité, c'est-à-dire nul savoir vrai, ne préexiste à la transmission. C'est la transmission qu'est le savoir même. La radicalité ne se divise pas. Pas de pourquoi, pas non plus une réponse au pourquoi du refus, du pourquoi, sous peine de se réinscrire dans l'obscénité un instant énoncé. Donc, pour Lanzmann, chercher à comprendre est en soi une obscénité. Et c'est là où on se heurte entre le devoir de mémoire de nature identitaire qui tend à la sacralisation de la souffrance du groupe et le désir de savoir qui prend la forme de la profanation. Il faut s'en tenir à l'idée que la démarche historique n'est pas de reproduire ou de faire revivre le passé, ni même de juger, mais bien de mettre en ordre, d'où les malentendus bien connus des témoins dans l'histoire du temps présent, quand ils sont confrontés aux historiens à leurs travaux. Leur vue singulière s'oppose à la vision qui se veut panoptique de l'historien. Il faut mettre fin à un malentendu persistant. L'explication et la compréhension des événements historiques tragiques ne sont pas des justifications de ces événements, des excuses pour ce qui s'est passé. Au contraire, éviter la sacralisation permettrait plutôt d'agir dans le sens de la prévention. L'étape supplémentaire est le passage de la victime au bourreau. Si la souffrance de la première est de l'ordre de l'incommunicable, peut-on se mettre à la place du second dans la perspective empathique, indispensable à la démarche de l'historien? Primo Levi trouvait ce champ d'investigation insupportable. Mais Hannah Arendt l'a ouvert avec le fameux concept de banalité du mal, à qui on a opposé l'exceptionnalité du mal, représentée par les actes. On doit admettre qu'il faut passer par un tel paradoxe pour que l'histoire du nazisme soit possible. D'où le fait qu'aujourd'hui, le dernier champ d'avance sur la compréhension du nazisme passe sur les bourreaux, comme les travaux, par exemple, de mon ami Christian Ingrao. C'est maintenant sur les bourreaux que les historiens travaillent. En revanche, les historiens s'entendent avec les victimes leurs ayants droit en affirmant que ni un génocide ou, de façon plus générale, une violence de masse, un crime contre l'humanité, conduit tout simplement à les reproduire. C'est le sens de la fameuse expression de Pierre Vidal-Naquet traitant les négationnistes d'Eichmann de papier. Dans les débats, les historiens doivent conserver toutes les rigueurs de leur méthode tout en respectant les souffrances portées par les mémoires. Ils doivent aussi pouvoir distinguer entre les acquis pour toujours et la dynamique des perspectives interprétatives qui sont par définition en renouvellement permanent. Donc, en conclusion, Thémis et Clios sont des muses apparentées. Toutes les deux travaillent sur les traces et les indices pour reconstituer ce qui s'est passé et elles dialoguent beaucoup ensemble. Les sources judiciaires sont l'un des plus grands gisements d'informations pour les historiens. Et dès qu'un procès remonte au temps présent, les historiens sont appelés comme experts devant les tribunaux. L'historien peut être comparé à un investigateur, à un juge d'instruction, mais ne peut être assimilé à un juge ou à un jury. Il a peut-être moins de moyens, mais une plus grande marge de manœuvre dans la reconstitution des faits, parce que son code de procédure n'est défini que par sa méthodologie et par son éthique professionnelle. Les finalités de l'enquête ne sont pas identiques. Thémis cherche à déterminer les responsabilités des décideurs et des exécutants. Clio tente de comprendre ce qui s'est passé. Les deux muses peuvent se rejoindre dans la qualification des actes, ici de génocide, même si elles n'en donnent pas la même définition. Mais on ne peut pas faire comme si le monde extérieur n'existait pas. La convention de 1948 a été le fruit d'un marchandage politique international. La popularité grandissante du génocide après cette date vient de ce qu'il a été posé comme le crime des crimes. On l'a vu qu'on refusait l'assimilation au nettoyage ethnique et à la ségrégation raciale. Les cours de justice agissent dans une perspective de prévention. En condamnant et en punissant sévèrement les derniers génocides, elles tentent de prévenir les prochains. En même temps, l'action en justice tente de compenser la non-intervention sur le moment des puissances. Les historiens, eux, doivent faire face à la demande sociale, souvent représentée par le militantisme des représentants des ayants droit de la souffrance passée. On entre ainsi dans les conflits de temporalité. Pour les représentants des victimes, il existe une simultanéité temporelle entre les actes de destruction et aujourd'hui, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour ceux qui sont dans une continuité juridique avec les auteurs des actes. C'est tout le problème des Turcs et des Allemands par rapport aux Juifs et aux Arméniens. En dehors de la question de la reconnaissance des actes, qui est une opération morale de repentance, il y a le problème matériel d'éventuelles réparations qui pose la question épineuse supplémentaire de savoir à qui les attribuer et sur quelle base les évaluer. Enfin, le dernier problème, qui n'est pas le moindre, est la question de l'intentionnalité. Elle est essentielle à la détermination de la qualification du génocide. Une destruction non intentionnelle ne serait pas un génocide, d'où le problème d'interprétation de certaines violences coloniales. Au-delà, on oppose le principe de proportionnalité. C'est la thèse d'un certain nombre de négationnistes du génocide de 1915 qui diminue le nombre de victimes pour les mettre au même rang numérique que les pertes civiles musulmanes en Anatolie, et le principe du moindre mal, Hiroshima. Aujourd'hui, on tend ainsi à limiter l'intentionnalité d'actes de violence en définissant les pertes comme collatérales, donc le produit d'une erreur, et non d'une intention, en contournant la question du recours à la force et des modalités de son utilisation. J'écris ça il y a 3 ou 4 ans, mais ce qui se passe en Syrie depuis change un peu la donne. Pour les historiens, l'intentionnalité des décideurs et des exécutants existe bien à un certain niveau d'interprétation qui correspond plus ou moins à celui de la procédure judiciaire, la détermination des responsabilités individuelles et collectives, au moins d'un point de vue institutionnel. On analyse là les processus de prise de décision avec la motivation et les marges de manœuvre des exécutants. Étaient-ils volontaires et enthousiastes pour commettre ces crimes ? Avaient-ils la possibilité de se soustraire à la réalisation de tels actes ? La relative passivité de certains était déjà au minimum une complicité objective ? Au-delà, les populations témoins ont-elles été aussi complices au minimum en ne s'y opposant pas ? Mais avaient-elles les moyens de s'y opposer dans le contexte de violence généralisée dans lequel se sont produits les événements ? C'est par exemple le problème de la Pologne aujourd'hui par rapport à la Shoah. Mais ce niveau d'interprétation peut se trouver englobé dans une perspective de compréhension plus vaste de nature sociologique et déterministe. L'ensemble des génocides se trouverait pris à la fois dans l'âge des extrêmes et dans les processus d'homogénéisation des populations à l'intérieur d'un territoire considéré comme un patrimoine inaliénable, consubstantiel à la constitution de l'État moderne. Dans ce cas, on ne peut juger des processus, mais seulement les déplorer. Mais c'est évidemment inaudible pour les ayants droit des victimes et ne permet pas de contourner la question de la continuité juridique entre les auteurs de la destruction et leurs héritiers. Au lendemain des guerres de religion en Europe, la crise de conscience européenne qui a remis en cause les religions du fait de leur violence est nécessairement passé par un refus moral des motivations de ces actes. C'est la philosophie des Lumières. Pour pouvoir condamner, il fallait en quelque sorte refuser de comprendre. Il en est un peu de même aujourd'hui face aux violences coloniales et à celles de l'âge des extrêmes. Mais en même temps, le refus de comprendre ne donne pas à la postérité un sentiment de supériorité morale sur les gens du passé. Une vue aussi biaisée du passé ne risque-t-elle pas de favoriser la mise en place d'engrenages conduisant à de nouvelles violences, ne serait-ce qu'en interprétant les événements d'aujourd'hui selon une grille d'interprétation fondée sur d'autres réalités ? Je vous remercie.